Nicolas Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle de rencontres ECHO, qui est un cycle de rencontres organisé par Cap Science et la librairie Mola, justement, autour des savoirs et de la science aujourd'hui. Alors, Nicolas Martin, vous êtes imposé comme une figure essentielle de la médiation scientifique en animant pendant 6 ans sur France Culture la méthode scientifique. Vous y avez déployé à la fois votre sens de l'interview, votre curiosité et votre passion de participer à la diffusion du savoir, mais aussi votre ouverture d'esprit en consacrant un nombre significatif d'émissions, aussi bien à la science-fiction qu'à la place de la science dans la pop culture. Aujourd'hui, nous vous recevons pour un livre qui s'appelle donc « La naissance du savoir », dans lequel vous avez procédé à l'interview de 17 scientifiques, alors 10 hommes et 7 femmes, on reviendra évidemment sur ce relatif déséquilibre, pour tenter de comprendre d'où naît le savoir, et en amont de cela, comment apparaît la vocation scientifique et comment travaillent justement les scientifiques. Alors, dans la préface de votre livre, vous expliquez qu'il y a une question faussement ironique qui est de savoir, le scientifique est-il un humain comme un autre? Est-ce que, au bout de 17 interviews, vous avez le sentiment d'avoir une réponse à cette question?
Alors, bon, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis impressionné parce que d'habitude, quand je viens, je suis à l'autre place, c'est moi l'intervieweur, donc je suis vraiment très content d'être ici pour parler de ce livre, parce que ce livre, c'est vraiment le fruit d'une interrogation qui n'a fait que se renforcer au fur et à mesure de ces 6 ans de méthode scientifique. J'ai vraiment fait un calcul au doigt très 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 mouillé en 6 ans d'émission à base de 440 émissions par an. Je dois être à plus de 2000 personnes reçues. Enfin, il y a 2000-2500 scientifiques. Et vraiment, au fur et à mesure, c'est posé cette question, alors que je voyais ces chercheuses et ces chercheurs venir partager avec toujours beaucoup d'enthousiasme leurs recherches. Cette question de me dire, mais effectivement, est-ce qu'il y a un ticket d'entrée? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il faut avoir quelque chose en plus? Est-ce qu'il faut être configuré un peu différemment du reste de l'humanité? Ou est-ce que n'importe qui peut devenir prix Nobel? Et avec une question un peu sous-jacente et assez personnelle, finalement, qui était de me dire, mais qu'est-ce que j'ai raté, moi, en fait? C'est-à-dire que moi, qui globalement cochais à peu près toutes les cases pour... Enfin, j'étais plutôt bon élève à l'école, j'adorais l'espace, j'étais plutôt bon en sciences, et puis boum, à un moment donné, je deviens prof de français. Et quelle porte, quel embranchement de vie j'ai raté pour ne pas devenir astrophysicien et passer ma vie dans les hauts plateaux d'Atacama Oshi pour regarder les étoiles. Et alors, à la question, et effectivement à cette faute question de savoir s'ils sont des êtres humains comme les autres, je trouve que ce dont j'ai voulu témoigner, c'est de me rendre compte, et justement précisément de leur immense humanité. Et c'est pas un topos, hein, c'est pas un lieu commun. On a encore beaucoup, je pense, l'idée ou l'impression ou cette image d'épinal du scientifique qui est dans son labo, qui est coupé du monde, du professeur Nimbus qui fait ses recherches et qui est inaccessible et qui grommelle des choses incompréhensibles sans avoir vraiment, parce que finalement parler de ses recherches, c'est l'ennuyer, c'est l'empêcher de faire son travail. Ben, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai, c'est des gens incroyablement humains, c'est des gens qui nous ressemblent. Dans ces 17 parcours, et même en faisant donc ces entretiens, puisque je précise bien que ce sont des entretiens que j'ai faits pour le livre, ce ne sont pas du tout des retranscriptions d'entretiens qui ont lieu pendant l'émission, il y a plein de moments où je me suis retrouvé, où je pense que n'importe qui peut se retrouver dans ces parcours et peut dire « Ah mais ça nous ressemble, en fait, ces gens-là nous ressemblent incroyablement ». Ce sont des gens qui doutent terriblement, ce sont des gens qui sont confrontés à l'échec, ce sont des gens qui sont confrontés à des gestions d'équipe parfois compliquées, ce sont des gens qui sont habités par leur travail qui les empêche de dormir. Ce sont des gens qui ont des idées en faisant des longueurs à la piscine ou en traversant l'Europe en Vespa. C'est des gens sympas, quoi. En fait, surtout, c'est ça, ça me fait penser à une des scientifiques que j'aime beaucoup, qui est une personne incroyable, qui s'appelle Evelyne Neyer, qui est une anthropologue généticienne, et donc dont le travail a été de parcourir le monde et d'aller chercher à montrer, sa thèse, c'était de montrer que la culture peut être un agent évolutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'évolution génétique, mais que des choix culturels peuvent pousser à de l'évolution au sens de la théorie de l'évolution. Et elle a vu plein d'ethnies, plein de tribus, etc. Et Evelyne Neyer me dit un truc, moi, qui m'a réjoui et que je dis à qui veut l'entendre. Evelyne Neyer, elle me dit un point commun, c'est que partout où je suis allé, les êtres humains sont sympas. Et vraiment, je pense qu'en ce moment, dans le contexte qu'on traverse, se dire que les êtres humains sont sympas, c'est pas désagréable. Et ben les scientifiques sont comme les êtres humains, ils sont sympas.
Sachant que alors, Evelyn Hilliard, effectivement, c'est un cas assez intéressant, mais on le retrouve aussi avec avec Sélos ou d'autres, oui. d'autres personnages. C'est-à-dire qu'on sent aussi que parmi les gens que vous avez interviewés, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont comme goût, comme passion, le fait de passer la science. C'est-à-dire que Evelyn Hilliard en est un cas effectivement particulièrement frappant. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix presque, mettant pour partie la recherche de côté, mmh. donc ils ont déjà fait leur carrière scientifique, de se dire il y a un moment, c'est indispensable, et ce n'est pas simplement parce que c'est leur plaisir. Ils considèrent que c'est indispensable socialement de participer à cela.
Oui, ça c'est très très important. La transmission, que ce soit de la vulgarisation pour le grand public, vous parlez de Marc-André Sélos, c'est aussi vrai de Gilles Boeuf, par exemple, mmh. qui est un qui fait les plateaux et qui est là et qui dont c'est la vocation de dire on est là pour transmettre pas seulement la science, pas seulement pour expliquer, mais pour transmettre l'amour de la science. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que je partage avec eux. Et c'est aussi quelque chose qui a évolué ces dernières années dans le sens où, où aujourd'hui la partie de transmission, la partie vulgarisation est une partie intégrante du travail de chercheur. Mais c'est aussi vrai dans la volonté de former les nouvelles générations, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entre elles et eux qui sont enseignants-chercheurs ou enseignantes-chercheuses. Et donc, oui, c'est la volonté de partager, de transmettre, de donner du goût, de susciter des vocations. Et c'est aussi, je pense, quelque chose, pour vous faire une petite confidence, que j'ai voulu poursuivre avec ce livre par rapport à mon travail à la radio, parce que je pense vraiment, et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité et une certaine émotion, pas plus tard qu'avant-hier, je dînais avec un étudiant en ingénierie biologie moléculaire que j'ai rencontré, alors c'était pas Hypermonde, c'était pas Arméniac, c'était à Nantes, qui est venu me voir, comme souvent quand je fais des signatures, etc., il y a des jeunes qui arrivent et qui arrivent un peu tremblants, en disant « Oh là là, mon Dieu, ça m'impressionne beaucoup de vous rencontrer. » Donc moi, je suis un peu tremblant en disant « Mais moi, ça m'impressionne aussi beaucoup que vous veniez. » Et qui me disent « Mais vous pouvez pas savoir, moi, je vous ai écouté au lycée, je vous ai écouté à la fac, et aujourd'hui, grâce à vous, je suis en thèse. Et je suis en thèse d'astrophysique, je suis en thèse de biologie, je suis en thèse de… » Voilà. Et moi, ça, franchement, sincèrement, c'est, je pense, la plus belle chose qui me soit arrivée et qui m'arrivera jamais dans ma carrière professionnelle, c'est de me dire que j'ai pu susciter des vocations, que grâce à mon travail et grâce au travail de mon équipe, j'ai pu éveiller la curiosité et faire partie de l'ensemble des facteurs, parce que c'est pas le facteur unique, mais qui a encouragé des jeunes à se lancer dans des carrières de recherche. Et c'est aussi vrai pour ces chercheuses et ces chercheurs dont l'envie est de partager, de former ces prochaines générations. Et je pense que dans ce bouquin, ce livre-là, c'est paradoxalement presque pas un livre scientifique, en fait. C'est un livre, c'est une enquête. Pas sociologique, parce que je ne suis pas sociologue, mais c'est une plongée inédite dans ce qu'est la vie, finalement, de ces chercheurs de haut niveau. Et je pense que ce livre peut tout à fait, et j'aimerais qu'il puisse être aussi un livre qu'on donne à un gamin de 13, 14, 15, 16, 17 ans, dont on sait qu'il est assez bon en sciences, qui a envie d'aller dans la recherche, et dans lequel il va retrouver des choses qui vont lui dire « Ah, ben je peux y aller parce que moi aussi je suis un peu comme ça. » Et en fait, parce qu'il parle du début, de leur vocation, de qui ils étaient quand ils étaient jeunes. Et j'aimerais que ce livre puisse continuer à susciter des vocations, quoi.
Parce qu'effectivement, pour dire un peu comment fonctionne le livre, c'est que vous avez assez 17 scientifiques, vous avez posé globalement les mêmes questions qui sont ordonnées sous la forme de comment apparaît la vocation, comment s'effectuent leurs recherches, et puis quelles sont leurs conditions de travail aujourd'hui avec les éventuels changements qu'on y trouve. Et justement, sur le versant de la vocation, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est que généralement, il y a le croisement de deux choses. Une curiosité, mais qui là, pour le coup, est propre à l'ensemble des enfants, parce qu'on voit rarement des enfants un peu curieux, mm-hmm. et une rencontre. Et c'est souvent, finalement, la coïncidence entre ces deux choses-là qui va déclencher quelque chose chez ces chercheurs.
Oui, tout à fait. C'est ça. Vous avez super bien résumé. Et sur la curiosité, bon, effectivement, les enfants sont curieux et il y a plein d'anecdotes qui sont absolument réjouissantes parce qu'on y retrouve effectivement ces étrangetés, ces choses un peu bizarres qu'on fait parfois quand on est enfant. Bah, par exemple, Hélène Lovenbruck, elle faisait des cahiers, elle collectionnait des mots. Je trouvais ça génial, c'est-à-dire qu'elle lisait, quand elle commençait à apprendre à lire, elle trouvait des mots beaux, et elle les écrivait dans un cahier de mots, et elle faisait une collection de mots. Puis ensuite, elle s'est mise à collectionner plein d'autres choses, etc. Marc-André Sellos, lui, très jeune, donc Marc-André Sellos, qui est botaniste et mycologue, il se passionne dès l'enfance pour les champignons, et il commence à collectionner des petits bouts de champignons, et il raconte dans le livre, à un moment donné, il me dit, mais moi, voilà, à 14 ans, j'étais dans une société mycologique avec que des vieux messieurs. Et on partait le week-end pour collectionner des champignons, et à un moment donné, à 18 ans, on m'a donné une toute petite lamelle séchée d'un champignon rare, et ça m'a ému aux larmes. Et je trouve ça génial de voir ces espèces de petites atypicités qui nous ressemblent et qui sont assez particulières. Et donc, il y a évidemment voilà, cette curiosité-là. Et là aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est important de dire en ce moment, c'est que souvent, très souvent, et c'est un fil rouge et c'est un point commun, il y a effectivement, à un moment donné, un enseignant. Un prof ou une prof en primaire, au collège, au lycée, parfois même tard à la fac, qui d'un seul coup va repérer et va ouvrir des portes et va tendre la main et va dire ah ben je repère un potentiel, etc. Je pense que aujourd'hui, quand on connaît l'état de l'éducation nationale, de la difficulté de faire ce métier, des coups de boutoir qu'elle subit jour après jour jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, quand on voit que aujourd'hui, si on n'a pas des profs qui à un moment donné ont l'espace pour repérer des gamins, pour leur donner envie, pour leur ouvrir une porte, hein, parce que c'est vraiment ce qu'ils font, et ben derrière, on n'a pas de grands scientifiques. Donc voilà, c'est un livre qui est un hommage aux enseignants, et je trouve que ça, aujourd'hui, bah, c'est aussi important de le dire, quoi.
Et il y a dans votre livre aussi une figure tutélaire que vous évoquez au début, parce que ça vous a guidé pour votre travail, et en même temps, c'est une figure qui coche toutes les cases que vous décrivez là, qui est celle de Gaston Bachelard.
Ouais.
Dans la mesure où c'est à la fois un très grand épistémologue, mais c'est aussi quelqu'un, vous évoquiez la question de ce que vous appelez le ticket d'entrée tout à l'heure, c'est quelqu'un qui effectivement n'était pas du tout destiné par son milieu familial à devenir le grand scientifique qu'il est devenu, et qui toute sa vie s'est aussi battu pour l'idée qu'il faut en permanence former et se former.
Oui, c'est-à-dire que, alors, quand je me suis lancé dans ce livre, j'ai commencé, ça c'est très très moi, j'ai commencé à me dire, bon, ben, je vais revenir à l'Antiquité et je vais lire tout ce qui s'est fait en épistémologie sur quelle est la nature de l'esprit scientifique depuis Aristote. Et puis je me suis dit que c'était un peu long et que c'était un peu massif. Et donc j'ai commencé à restreindre mon champ. Alors j'ai papillonné un peu. Et c'est vrai que les deux sources auxquelles je me suis vraiment abreuvé, c'est bon, évidemment Bachelard, que moi j'ai découvert dans la méthode scientifique, hein, en faisant l'émission, j'étais très peu familier. Et puis alors, il y a un truc fabuleux avec Bachelard, outre évidemment sa pensée et son livre fondateur, qui est évidemment, ça manquait l'éducation à l'esprit scientifique, c'est ça ? Ouais. Il y a plein d'archives sonores de Bachelard, il a un accent incroyable, cette espèce d'accent roulant. On l'a diffusé, si vous écoutez la méthode scientifique, à chaque fois qu'on pouvait diffuser Bachelard, on mettait Bachelard. Parce que c'est un poème d'entendre sa voix. Et je suis tombé sur les travaux d'une autre personne moins connue, qui est une sociologue, anthropologue, qui s'appelle Vera John Steiner, qui a écrit un livre passionnant dans les années 80, qui est américaine, et qui a écrit un livre qui s'appelle Notebook of the Mind, où elle a fait un travail qui ressemblait un peu à cela, où elle a cherché à caractériser la pensée créatrice ou créative. Et elle a interviewé pas du tout que des scientifiques, mais a interviewé des journalistes, des artistes, des auteurs, des créateurs et des scientifiques. Pour le coup, c'est vraiment un travail sociologique universitaire, mais dont elle a tiré un livre qui est passionnant et qui m'a pas mal guidé dans la construction de ce questionnaire unique, puisque l'idée, c'était donc, comme vous l'avez dit, un questionnaire que j'applique à chacun des interviewés, étant entendu qu'il y a 17 personnes, une personne par discipline, et que j'avais, dans un deuxième temps, l'envie d'essayer de comprendre si, non pas il existait un esprit scientifique universel, mais si tout de même une pensée mathématique s'organisait de la même façon que la pensée d'une généticienne, qu'une pensée physique, qu'une pensée linguistique, qu'une pensée neuroscientifique. Enfin voilà, je me demandais s'il y avait quand même tout ça des sortes de points ou de passages obligés.
Et donc, du coup, c'est ce qui explique aussi la façon dont vous avez conçu, non pas le questionnaire, mais les gens que vous interviewez. Mmh. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'avoir l'ensemble, en gros, l'ensemble du spectre des champs scientifiques, et enfin, autant que possible.
Ouais, sinon, le livre aurait été un peu plus
épais. Voilà. Et puis aussi, cette articulation qu'on évoquait au tout début, qui est la proportion d'hommes et de femmes, et qui est une question véritablement importante, parce que, surtout d'ailleurs, les scientifiques femmes y reviennent, sur la construction même de la science.
Tout à fait. Alors, effectivement, l'idée, c'était d'avoir de parcourir un champ qui était voilà qui faisait à peu près le enfin qui était représentatif disons des grandes disciplines scientifiques en évitant d'avoir des doublons. C'est pour ça que par exemple j'ai pris alors en plus Alain Aspect m'a répondu 15 jours avant d'avoir son prix Nobel donc j'ai eu le nez creux et que j'ai pas pris Serge Haroche parce que bon voilà c'est, donc je voulais pas avoir pour ça que j'ai pris par exemple Yves Agide et que j'ai pas pris Lionel Nakache alors que enfin bref mais disons que je suis allé bah, comme c'est des gens que j'ai interviewé que je connais et que j'apprécie et qui m'ont fait tous et toute l'amitié de répondre volontiers de me donner du temps je voulais donc que ce soit plutôt des gens qui soient donc reconnus dans leur domaine, mais je voulais apporter aussi avoir certains ou certaines chercheuses un peu plus jeunes, c'est-à-dire alors pas en début de carrière, mais de pas tous de la même génération. C'est-à-dire, je voulais pas que ce soit tous des émérites, même s'il y en a quand même effectivement beaucoup. Je voulais que ce soit totalement paritaire, mais figurez-vous que les trois refus que j'ai essuyés sont trois refus féminins. Mais enfin, et pour des raisons diverses et pas, enfin qui sont pas critiquables, mais enfin à l'origine c'était 10 et 10 et j'ai une prix Nobel qui il fallait y avoir Emmanuelle Charpentier qui m'avait donné une réponse positive au début et puis qui a pas eu le temps parce qu'elle est débordée. Emmanuelle Charpentier, prix Nobel de médecine physiologie récent pour les ciseaux moléculaires avec Jennifer Doudna, CRISPR-Cas9, qui est relativement jeune en plus, qui est rare dans les médias et qui était une auditrice de la méthode scientifique avec qui j'ai correspondu et puis ce sera peut-être pour l'audition augmentée.
et justement, pour évoquer ce point-là, ce qui est intéressant sur les différentes scientifiques femmes qui vous répondent, c'est que malgré tout, là, pour le coup, il n'y a pas du tout d'homogénéité de leurs réponses. Alors, ça dépend aussi un peu de leur génération. Mais entre celles qui ont le sentiment vraiment d'être construites contre un modèle qui était essentiellement masculin et celles qui ont considéré que ce n'était pas du tout l'objet... Et
comme Françoise Combes, par exemple.
Voilà.
Françoise Combes, elle passe à côté. Je vais dévoiler... Elle me disait même... Elle avait même une formule. Alors, pour l'histoire, donc j'ai fait l'entretien. On a beaucoup réécrit pour le rendre plus agréable, plus lisible, moins oral. Ça a été un gros travail d'édition tout en gardant vraiment la sève de ces entretiens qui duraient parfois une heure et qui ont pu durer jusqu'à trois heures pour certains d'entre eux. Donc il y a eu vraiment un gros travail de synthèse et de mise en forme. Et à toutes et tous, je leur ai proposé à chaque fois, je leur ai dit de toute façon, je vous renvoie une fois qu'on a travaillé ça, ces textes-là, et vous avez le dernier mot, vous pouvez les amender, vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez réécrire. Enfin vraiment, je veux que vous soyez complètement confortable avec ça parce que, par exemple, Alain Aspect m'a dit à l'issue de l'entretien, il m'a dit mais Nicolas, je ne veux pas imiter son accent chantant d'Astafor, mais avec son accent si paraît-il, m'a dit mais moi, voilà, il venait d'avoir le prix Nobel, donc ça faisait deux mois qu'il répondait à des interviews, il me disait mais Nicolas, on m'a jamais posé des questions comme ça, vous me renvoyez quand même le texte, j'aimerais vérifier que je n'ai pas dit de bêtises, je vous donnerai mon accord une fois que je l'aurai relu. Donc elles l'ont relu, et Françoise Combes a eu cette expression absolument merveilleuse, qu'elle me disait, moi, pendant, il m'a fallu, alors j'ai plus l'expression exacte, mais quelque chose comme, il m'a fallu très longtemps avant de me rendre compte que j'étais une femme en astrophysique. C'est une sorte de chose un peu bizarre comme ça. Mais pour autant, effectivement, c'est une question que je pose donc aux sept femmes interrogées. Les plus jeunes sont quand même souvent celles qui constatent à la fois une évolution et en même temps des persistances très pénibles et très ancrées encore et parfois même inconscientes. Pour reparler d'Evelyne Heyer, moi je trouve que l'exemple d'Evelyne Heyer est quand même incroyable. Evelyne Heyer dit encore maintenant, il y a peu de temps, j'étais key speaker, c'est-à-dire j'étais l'une des intervenantes principales dans un colloque. Il y avait deux hommes avant moi. Et quand on les présentait, donc on présentait le premier intervenant, c'était voilà, et donc tout de suite, je vous présente le professeur machin, puis ensuite, je vous présente le professeur bidule, et enfin, bienvenue, c'est à toi Evelyne. Non mais voilà, c'est dire à quel point, et pourtant, Evelyne a un poste de responsabilité au Musée de l'Homme, c'est elle qui a refait tout le Musée de l'Homme, enfin bref, où on peut parler de Laurence de Villers, hein, Laurence de Villers qui est informaticienne dans un milieu qui est aussi un milieu très masculin, et qui dit, d'une certaine façon, qui dit qu'il y a évidemment une misogynie constitutive, une structuration patriarcale qui fait que la place des femmes est moindre, et qu'en même temps, d'un autre côté, le fait d'être une femme à un moment donné a pu être un avantage parce que étant moins nombreuse, sa candidature était privilégiée. Donc voilà.
Et Laurence de Villers dit quelque chose d'assez passionnant parce que c'est un pas de côté tout en restant sur le même sujet. elle dit 80% des personnes qui programment les objets techniques sont des hommes, et 80% des objets qui emploient de l'IA sont féminisés.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
tous les assistants vocaux, par exemple, sont systématiquement des femmes.
Oui.
Et donc ça, c'est assez passionnant aussi, parce que ça veut dire aussi la place qu'on accorde à l'objet, il faut que ce soit un objet de désir, donc c'est une femme, etc. Donc c'est quand même complètement conçu dans des logiques masculines.
Absolument, tout à fait, oui, c'est un très bel exemple.
Et alors, dans les questions que vous posez de façon récurrente, il y a justement cette phrase d'Einstein, à laquelle vous tenez beaucoup, qui est une phrase des années 30, je crois, où il dit qu'il est scientifique parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de caché derrière les choses.
De profondément caché.
De profondément caché.
Deeply hidden, voilà. Behind things.
Et c'est intéressant parce que tous n'ont pas la même réaction par rapport à cette phrase-là. Alors moi, j'aime beaucoup la réaction de Gilles Boeuf qui dit ça, c'est bien une phrase du physicien.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que l'idée de la physique ou des mathématiques, c'est l'idée qu'effectivement, il y a une structuration des choses derrière le monde et que lui, ce n'est pas du tout son point de vue.
J'aime bien cette phrase parce que quand Einstein écrit ça, il parle de son enfance. C'est-à-dire qu'il dit que petit, très tôt, il avait effectivement l'impression qu'il y avait quelque chose à découvrir. Et cette notion de découvreur, elle apparaît à plusieurs endroits. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui a un peu déjoué mes attentes. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait deux grands types d'organisations en fonction justement des disciplines. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait une forme d'organisation, disons, un peu dure du côté des mathématiques, de la physique et des sciences très théoriques, et qu'il y aurait une organisation finalement un peu plus empirique du côté des sciences du vivant. Je me suis planté. C'est pas du tout vrai. Les vraies caractérisations, c'est qu'effectivement, il y a une différence d'organisation de la pensée entre les théoriciens et les expérimentateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais vraiment, et ça apparaît très très clairement, dont le travail, c'est d'aller sur le terrain, de récupérer des données et de produire de la théorie à partir des données, et donc de travailler de manière déductive, et les théoriciens qui font l'inverse, c'est-à-dire qui produisent de la théorie et qui fonctionnent de manière inductive. Ça fait partie des différences assez intéressantes sur cette question d'un esprit scientifique commun, quoi.
Et en même temps, cette donnée-là est importante parce que elle vient rejoindre une autre question que vous posez aussi, qui est la question des images et la façon dont, alors qu'une question qui est à double niveau, puisque c'est à la fois la façon dont eux mentalement ont des images par rapport à leur savoir, avec cette idée que globalement un certain nombre d'entre eux disent, en fait, moi je suis évidemment que j'ai des images et qu'elles sont indispensables à la conception du savoir, mais je suis incapable de les expliciter. Et aussi derrière, on y reviendra parce que c'est aussi une question liée à la médiation scientifique, toute la question de la métaphore. À quel moment on a besoin de la métaphore pour comprendre à soi-même et pour faire comprendre, et à quel point ce qui était une élucidation devient un handicap.
Oui, c'est intéressant parce que voilà, dans la deuxième partie, j'essaie de comprendre effectivement comment se formule la pensée. Il y a beaucoup de travaux d'ailleurs en neurosciences et même en linguistique qui sont passionnants, notamment Hélène Novenbruck qui travaille sur la voix intérieure. Et à partir du moment où on a naturellement tendance à penser que le reste de l'humanité, ou en tout cas de nos proches ou des gens que l'on côtoie dans un certain milieu socio-culturel linguistique, que tout le monde pense pareil, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que moi j'ai non pas une, mais plusieurs voix intérieures et extérieures. C'est-à-dire que quand je pense, j'entretiens un dialogue, parfois avec deux, trois personnes, quatre qui interviennent, et parfois il y a tellement de monde que je suis obligé de parler à voix haute pour les différencier. Et j'avais globalement l'impression que tout le monde était comme moi, et puis ensuite mon médecin m'a donné des médicaments, et ça va beaucoup mieux. Et je ne sais pas qui vous parle en ce moment, bon, bref, ça c'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous tendance à imaginer que finalement il y a une forme d'organisation commune de la pensée. Or, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui pensent en dialogue, il y a des gens qui pensent en monologue, mais il y a des gens qui ne pensent pas avec des voix. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à Evelyne Heyer, ou par exemple à Étienne Gys, qui est mathématicien, j'adore ça aussi, parce que ça casse un certain nombre d'idées reçues. Mathématicien, les mathématiques, c'est difficile, c'est un monde austère, c'est difficile à vulgariser, on ne comprend pas ce qu'ils font, ils font des équations. Étienne Gys dit non. C'est pas vrai. Moi, je fais pas d'équations. Certains mathématiciens font des équations, mais je déteste les équations. Moi, je suis géomètre. Donc, moi, je pense dans l'espace, je pense dans, en figure dans l'espace. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné, il y a un logiciel génial, qui s'appelle Mathematica. Quand il est sorti, c'était fou parce que j'avais l'impression de commencer à pouvoir représenter approximativement la façon dont je pensais. Et je l'ai montré à ma femme et je lui ai dit, tiens, regarde, c'est ça, ça ressemble à ça, ce que j'ai dans la tête. Mais pour revenir à Evelyne Heyer une fois de plus, elle arrive à le raconter assez bien. Comment elle formalise, en fait, elle voit des individus et elle voit des espèces de concepts en mouvement, c'est-à-dire que des individus qui bougent, qui tracent des lignes et ces lignes se déplacent et elle essaye de décrire finalement et elle pense dans une sorte de schéma en trois dimensions en mouvement. Edith Hur dit qu'elle pense dans des concepts qu'elle ne peut pas verbaliser littéralement. Et donc c'est intéressant de voir que y a en fait autant de modes de pensée, de production de la pensée qu'il y a d'êtres humains finalement.
Avec un effet retour aussi, qui est le fait que leur domaine et la façon où les découvertes qu'ils vont faire modifient leur propre perception du monde.
Oui, c'était ma question finale. Et alors, paradoxalement, c'est peut-être là où j'étais le plus déçu par rapport aux attentes que je formulais. C'est-à-dire que je m'étais l'idée, l'acmé finalement de cet entretien. Donc après ces trois parties, il y a une dernière partie. Très plus rapide en forme de conclusion où je leur demande quelle est la recherche ou la découverte qu'ils ont faite dont ils sont le plus fiers, quel est leur plus grand échec, et je leur demande s'ils ont le sentiment que leur domaine de recherche, leur discipline a fait évoluer ou a transformé la façon dont ils percevaient le monde. Et effectivement, j'avais ce fantasme de me dire que, justement pour reprendre ce lieu commun foireux que je viens de décrire, que un mathématicien voit un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, mais voir en équation, ça voit le monde et voit des équations partout. Absolument pas. Alors, c'est vrai pour certaines et certains d'entre eux. Et je me demandais si, voilà, par exemple, Alain Aspect me dit que sa connaissance de la physique fait que tout de même, quand il entend des âneries, notamment, il prend l'exemple du poids d'une voiture électrique et de sa consommation d'énergie, et dit non, mais enfin, il y a quand même des équations qui montrent qu'à un moment donné, la force cinétique prend le relais. Bon, bref, donc ça modifie un peu à la marge. Ce qui est intéressant, en revanche, et moi, ce à quoi je m'attendais peut-être pas tout à fait, c'est que beaucoup d'entre elles et eux, et notamment pour les coups dans les sciences du vivant, disent ça les a non seulement éveillés, mais que dans le domaine du regret, ils auraient dû prendre la parole plus tôt pour alerter la population et pour s'impliquer politiquement sur la description de l'état du monde et de la catastrophe environnementale. Et il y a plusieurs personnes qui disent ça, qui disent que c'est vraiment aujourd'hui que c'est leur rôle, Gilles Boeuf notamment, Marc-André Sellos, en disant voilà, ça vraiment, mon travail sur la biodiversité, sur la nature, me dit que en fait j'aurais dû passer et avoir un discours public beaucoup plus tôt et me consacrer à ça beaucoup plus tôt.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que ce ne sont pas des questions que vous posez pour le coup, la question de la catastrophe environnementale. Et effectivement, on la voit sourdre peu à peu. Dans le livre. Alors, des fois, elle est complètement absente, et puis des fois, elle apparaît effectivement comme une chose qui vient s'imposer aux travaux de recherche même que sont en train normalement de mener ces personnes-là.
Oui, c'est vrai plutôt pour les chercheuses et les chercheurs qui sont dans le domaine des sciences du vivant. C'est aussi passionnant parce que, enfin, l'une des autres questions que je pose à la fin, c'est de dire est-ce que vous pensez que les grandes découvertes dans votre discipline passés, sont derrière vous ou sont devant vous. Et là aussi, ça produit deux choses un peu contradictoires. Il y a une énorme partie qui dit mais enfin, tout reste à découvrir. Et il y en a aussi beaucoup qui disent mais on ne sait pas si on aura le temps.
Oui, qui est une réponse effectivement très, très frappante. Après, qui dépend aussi, il y a aussi des sciences plus ou moins jeunes, si on peut dire. C'est qu'on voit que par rapport à cette question-là, les mathématiciens n'ont pas les mêmes réponses que les généticiens. C'est que pour le coup, Evelyne Heyer, par exemple, elle a une réponse qui est beaucoup plus. Évidemment, on n'est qu'au début.
Sur l'épigénétique.
Voilà, sur l'épigénétique, on a commencé, ça n'intéressait personne. Parce que ça, c'est aussi un point commun sur lequel on peut venir, qui est de ces figures-là, parce que ce ne sont pas n'importe quel scientifique. Ce qui est intéressant pour certains d'entre eux, et c'est aussi le cas d'Alain Aspect, ce sont comme des gens qui, pendant des années, ont pour certains travaillé sur des sujets où ils étaient assez peu considérés, en disant « c'est bien, il s'occupe dans son bureau, ça, c'est ça, ouais. Et il ne fait pas de bruit », et qui, pour des raisons de contingence historique, se retrouve finalement au cœur de travaux qui sont devenus essentiels à la société, et qui vient poser derrière effectivement cette question-là, qui est toujours la question de l'utilité, et qui est maintenant un peu préalable à la recherche, alors que eux, par leur parcours même, montrent qu'elle doit toujours être a posteriori de la recherche.
Oui, c'est ça, et c'est Jean-Pierre Sauvage qui le dit, alors, parce qu'il y a aussi une autre question qui transparaît, et même parfois de manière assez virulente chez certaines et certains d'entre eux, sur la question de politique de la recherche. Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie pour les machines moléculaires. Jean-Pierre Sauvage, il a réussi à faire en sorte à créer des molécules qui fonctionnent comme des petites machines, comme des petits moteurs, comme des petits muscles au niveau moléculaire. C'est-à-dire, il a réussi à assembler ça, etc. Il a gagné le prix Nobel de physique pour ça. Jean-Pierre Sauvage, il a fait ça dès le début de sa carrière dans son laboratoire à Strasbourg. Il a passé 40 ans à Strasbourg et il a eu le prix Nobel. Jean-Pierre Sauvage dit, et d'autres le disent avec lui aussi, que faire ce type de recherche fondamentale-là aujourd'hui, c'est-à-dire tracer son sillon dans un secteur qui, a priori, est pas un secteur avec, pour le moment, ou en tout cas au moment où il y était, avec des applications industrielles, du brevet ou de ce qu'on appelle aujourd'hui innovation, parce que la recherche, c'est devenu un gros mot, ces types de parcours scientifiques-là, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et il y a beaucoup d'entre elles et eux qui disent que pour les jeunes et pour les jeunes générations, se lancer aujourd'hui dans un parcours de recherche, ça demande de la pugnacité et un peu d'abnégation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la recherche, l'enseignement supérieur et la recherche en France, c'est pas très simple. Les conditions sont de plus en plus compliquées. Marc-André Sellos a même une poussée éruptive contre l'actuel président du CNRS en disant qu'il est en train d'essayer de transformer la recherche justement française en start-up et que c'est vraiment aller à l'encontre justement de la recherche au temps long qui produit. Qui produit du savoir, de la connaissance et des prix Nobel à la fin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces chercheuses et de ces chercheurs-là qui, aujourd'hui, ne sont pas d'un grand, grand optimiste sur l'avenir de la recherche.
Avec une donnée qui peut paraître comme ça purement contingente, mais qui est vraiment essentielle parce qu'ils en parlent tous, qui est la croissance des publications.
Oui.
Puisque la valorisation
per riche.
Voilà, les carrières se valorisent au nombre des publications. Et Laurence de Villers dit, mais en fait, 90% sont redondantes.
Oui,
en fait, finalement, à force de publier pour marquer son territoire, on publie toujours la même chose, et il y a une déperdition considérable du rapport entre le signal et le bruit. Quoi.
Il faut, pour comprendre ça, donc c'est l'expression. L'expression consacrée, c'est « publish or perish », publier ou mourir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, la logique de la recherche internationale est que il faut publier le plus souvent, le plus possible, pour montrer que le laboratoire dans lequel on travaille a produit de la connaissance, et donc pour être en mesure de faire des demandes de subventions et pour pouvoir poursuivre ces recherches qui sont accordées au nombre de papiers publiés. Donc c'est une sorte de course à l'échalote qui est assez mortifère, et il y a beaucoup de gens qui le disent et qui le déplorent, mais on a du mal à trouver des solutions pour s'en sortir, et ça amène à des comportements de publication qui sont assez délétères, comme par exemple ce qu'on appelle le saucissonnage, c'est-à-dire que quand on commence à travailler sur un sujet, eh bien, au lieu d'attendre 3 ans, 4 ans, d'avoir des résultats concrets, redondants, qui permettent d'être consolidés et d'apporter une vraie avancée scientifique, eh bien, on va publier 3, 4, 5 papiers pour pouvoir satisfaire à cette exigence du milieu de la recherche académique internationale. Et c'est évidemment très, très dommageable.
Alors justement, pour revenir à des choses plus enthousiasmantes, parmi les questions passionnantes que vous posez, il y a la question de comment les idées leur viennent. Avec c'est intéressant parce que là aussi, il y a tout un tas de variations autour des réponses. Et avec l'articulation que vous posez toujours, qui est aussi la question du poids du hasard ou de la sérendipité, c'est-à-dire le fait de trouver ce qu'on ne s'attendait pas à trouver dans leur recherche. Et là, c'est marrant parce qu'il y a d'un côté les obsessionnels, si l'on veut, c'est-à-dire ceux qui considèrent que c'est à force de creuser toujours le même sillon, et il y a un certain nombre d'entre eux qui considèrent que c'est généralement dans le pas de côté que va surgir l'idée.
Ouais. Oui, là aussi, ça dépend beaucoup des disciplines. C'est-à-dire qu'on se voit que là, pour le coup, du côté des expérimentateurs ou des expérimentatrices, il y a le petit hasard, il y a le « Ah, je fais des expériments ». C'est la question de l'anomalie aussi qu'on pose souvent. C'est-à-dire que c'est l'une des questions récurrentes que je pose en disant « Comment vous réagissez face à l'anomalie ?» Une anomalie, pour les expérimentateurs, c'est super. C'est-à-dire que c'est en général, c'est genre, c'est ah, là, il y a quelque chose, il faut aller creuser, et donc ça veut dire que voilà, mon expérience, il faut que j'aille plutôt par là, etc. Pour les théoriciens, c'est plus ennuyeux. Mais non, ce qui est intéressant sur l'émergence des idées, c'est que je pose cette question du Eureka. Le fameux topos de se dire ah mon Dieu d'un seul coup l'idée voilà qui est c'est pas seulement Archimède c'est Henri Poincaré qui formule son théorème en montant dans l'omnibus et c'est intéressant parce que c'est là Yves Agile en parle très bien et le montre et on voit comment en fait Le Eureka est une sorte de réalité pour des raisons neurologiques. C'est-à-dire que Yves en parle très bien en disant, mais en fait, on a l'impression que notre cerveau travaille que quand on est sur le bureau, à la table de travail, en train de lire, c'est-à-dire en train d'effectuer un travail. Alors le cerveau travaille littéralement 24 heures sur 24 tout au long de votre vie. Votre cerveau s'arrête jamais. S'il s'arrête, c'est que c'est terminé. Et du coup, il y a besoin toujours. Le cerveau a besoin à un moment donné de ces espaces où il n'est pas concentré à une tâche et où en fait il va finir par faire des liaisons inconscientes qui à un moment donné donnent le sentiment que, parce que Étienne Gis raconte exactement ça, il a vécu le théorème de Poincaré à un moment donné où il était au Brésil et il monte dans une ligne pour aller sur le travail, d'un seul coup il est dans le bus et il dit ah mais bon sûr, il arrive et plap et d'un seul coup il signe un papier et il fait un truc et Evelyne Heyer qui est à nouveau elle a besoin de prendre son Vespa et elle part sur sa moto et elle fait des kilomètres pour partir pour ses vacances, etc. Et d'un seul coup, sur sa moto, pouf, elle a des idées qui lui apparaissent et elle réfléchit remarquablement bien. Donc ça, c'est assez amusant, mais ça me fait penser à autre chose quand vous parliez de cette question du sillon. On n'a pas parlé, pour moi, celui qui ouvre, le chercheur qui ouvre le livre, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration, qui est Carlo Rovelli. Carlo Rovelli, qui est donc un physicien, théoricien, philosophe, ex-anarchiste punk qui a commencé sa carrière scientifique globalement en prenant du LSD, en fumant du hashish, puis à un moment donné, un prof qui lui a dit « Dis donc, t'as quand même quelques capacités, ce serait bien que tu réduises les drogues et que tu augmentes le travail. » Et c'est devenu l'un des cerveaux, en tout cas en physique théorique, les plus brillants de sa génération. Et Carlo est un vulgarisateur de génie. Si vous n'avez pas lu Carlo Rovelli, je vous conseille de lire ses 7 brèves histoires de physique ou son bouquin sur le temps. C'est accessible, c'est passionnant, ça ouvre des dimensions vertigineuses. Enfin, c'est un mec formidable qui m'a fait l'amitié. Bon, il avait déjà écrit la préface de mon bouquin sur l'espace et de répondre à mes questions. Et Carlo, il dit quelque chose que je trouve très très bien et que je trouve très 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 enfin passionnant parce que c'est extrêmement visuel. Il dit en fait. Le travail du scientifique, c'est d'arpenter le mur de la connaissance. Il y a un mur énorme et on est face à un mur. Et c'est un mur sur lequel on bute. Et ce mur-là, il faut le connaître par cœur. C'est-à-dire qu'il faut lire, il faut l'arpenter. Et il faut y aller, il faut y retourner, et il faut se casser les dents, mais il faut le connaître par cœur. C'est-à-dire qu'il faut connaître les moindres petites failles, la moindre petite anfractuosité, etc. Et à un moment donné, à force d'accumuler ça, et à force de connaître ce mur, qui est un mur sur lequel on bute, et bien d'un seul coup, on trouve une anfractuosité un peu plus grande dans laquelle on arrive à glisser un doigt. Et là, d'un seul coup, dans cette anfractuosité, on peut rentrer, on peut s'engouffrer, et d'un seul coup, on repousse d'autant, et d'un seul coup, on trouve quelque chose, parce qu'on a passé tellement de temps à explorer ce mur, que d'un seul coup, on arrive à le repousser d'un petit centimètre. Et je trouve que cette image est très belle, et je la mets en parallèle avec, et alors, pour le coup, c'est vraiment de deux bouts du spectre des disciplines scientifiques, puisque Carlo fait de la physique théorique, et de l'autre côté, Jean-Jacques Hublin, qui est paléo-anthropologue, qui a longtemps travaillé sur Néandertal, et qui raconte une histoire que je trouve magnifique. Jean-Jacques Hublin, vous le connaissez peut-être parce qu'il y a 3-4 ans, il a fait la une de Nature parce que grâce à ses fouilles au Maroc, à Jebel Iroud, il a trouvé des ossements d'Homo sapiens qui remontent à 300 000 ans avant notre ère. Or, avant Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens était estimé son apparition à 200 000 ans et pas du tout dans cette région-là du monde, mais plutôt en Afrique de l'Est. Donc, Jean-Jacques Hublin a repoussé l'apparition d'Homo sapiens de 100 000 ans, ce qui est considérable, et a montré que Homo sapiens, il existait des formes d'Homo sapiens en Afrique du Nord et pas en Afrique de l'Est. Et c'est une histoire que je vous laisserai découvrir parce que c'est une histoire qui commence littéralement à son enfance, cette découverte de Jebel Iroud. Et Jean-Jacques Hublin dit quelque chose, moi, que je trouve merveilleux et émouvant. Il dit, mais vous, enfin, Évidemment, c'est du travail. C'est un aspect qui dit, j'adore le mot obsession. Évidemment, on y passe des années, ça nous bouffe le cerveau, on s'en empêche de dormir. Parfois, nos couples, nos vies volent en éclats. Enfin, c'est voilà. Et pourtant, à un moment donné, quand on fait une découverte, on est le premier être humain de l'histoire de l'humanité, le premier à jamais avoir d'un seul coup trouvé une nouvelle idée et fait progresser la connaissance de l'ensemble de la population humaine. Et ça, comment voulez-vous qu'on soit pas accro à ça? Parce que quand on trouve ça, c'est le plus beau moment d'une vie, quoi. Et je trouve ça vraiment, ça, moi, ça me, enfin, je trouve ça hyper, enfin, je trouve ça très bien formulé, je trouve ça assez émouvant. Ouais.
Alors, sachant que dans le récit que fait Hublin, il y a aussi une autre chose fascinante, c'est que l'attachement, ce qu'il montre aussi, c'est que l'attachement des scientifiques à vouloir assigner l'Homo sapiens à la vallée du Rift, donc à l'est de l'Afrique, il raconte très bien comment c'était aussi lié pour partie à l'américanisation de la science, avec l'idée qu'il y avait une vision complètement liée à la Bible, que c'était un Éden, il y avait un lieu.
On parle d'un Éden.
Il fallait que ça sorte d'un lieu et que, effectivement, et comment ces représentations-là déterminent les conditions mêmes de la recherche.
Oui, tout à fait. C'est une autre scientifique que j'ai pas interviewé parce que j'avais pris Françoise Combes, mais c'est Hélène Courtois qui le raconte aussi très bien, qui est astrophysicienne, cosmologue. Et qui nous rappelle, parce que évidemment, on aurait tendance à penser aujourd'hui que la science est une objectivation du réel complète. La science est une interprétation, a toujours été une interprétation culturelle à tous les moments. Évidemment, surtout en paléoanthropologie, où on doit reconstituer une histoire à partir de micro-fragments. Faire de la paléoanthropologie, c'est faire un puzzle de 1 milliard de pièces avec 500 pièces. Donc autant vous dire qu'il faut avoir un certain talent d'interprétation pour comprendre le dessin global. Forcément, quand on laisse une part à l'interprétation, cette interprétation, elle est orientée culturellement. Pendant très longtemps, regardez ce qui se passe avec Néandertal. Hein. Néandertal, on a à un moment donné, quand on a découvert Homo sapiens, on dit Homo sapiens, c'est le sommet de l'évolution. On est beaucoup. Néandertal, c'était vraiment notre cousin arriéré primitif, etc. On se rend compte que Néandertal avait déjà un volume crânien supérieur à celui d'Homo sapiens, qu'ils étaient tout à fait organisés, qu'ils avaient des rituels funéraires, etc., etc., etc. Et on est en train de revenir là-dessus. C'est comme la place de la femme préhistorique, dont on voit bien qu'aujourd'hui, on se pose la question de la femme préhistorique parce que notre conception de la part du féminin dans la société est beaucoup plus sensible. Donc, tout récit scientifique est évidemment une interprétation et c'est vrai dans les sciences de l'humain au sens large. C'est peut-être un peu moins vrai dans les sciences mathématiques, mais c'est aussi vrai, par exemple, en physique théorique. Hein.
Oui, mais même si Étienne Gis, qui est mathématicien, dit une chose très importante, il dit qu'il faut qu'il y ait un consensus de communauté.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, plus que... Alors que le mathématicien, normalement, il a des objets qui sont indiscutables en eux-mêmes, et lui, il raconte très bien, effectivement, et il prend un exemple, d'ailleurs, assez stupéfiant, sur un théorème démontré, mais par deux personnes qui ne communiquent avec aucune autre. Donc il dit, mais là, ça n'a aucun intérêt du point de vue scientifique, puisque la communauté, soit n'a pas accès aux données, soit il ne fait pas consensus autour de ce savoir-là.
Oui, Étienne est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est un vulgarisateur de génie, secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences également. Et effectivement, il raconte, il dit, à un moment donné, ce théorème-là, si il y a ce type-là qui est russe, qui vit au fin fond de la Sibérie, et une autre personne qui, de toute façon, refuse de divulguer et qui nous disent tous les deux, ah oui, mais nous, on a fait des calculs, on aboutit à la résolution du théorème, à partir de ce moment-là, si personne ne peut avoir accès à ça et si personne ne comprend ces travaux-là, finalement, on n'est pas très loin d'un acte de foi. Ce qui est quand même dingue en mathématiques. Moi, c'est quelque chose que je partage avec vous parce qu'il m'a fallu du temps avant de comprendre ça. Parce qu'effectivement, les mathématiques sont une science difficile à appréhender quand on n'est pas scientifique et quand on n'est pas mathématicien qui plus est. C'est qu'on parle des mathématiques en imaginant que les mathématiques, encore une fois, globalement, c'est des équations. Il faut bien savoir que les mathématiques de haut niveau, quand vous entrez dans des instituts de mathématiques, vous avez des bureaux avec des mathématiciens qui travaillent. Alors, il y a des gens qui font de la géométrie, des gens qui font de l'algèbre, des gens qui font de l'arithmétique, des gens qui font des statistiques, des gens qui font de la topologie. Je vous assure que vous prenez deux voisins de bureau, vous en prenez un, vous l'interchangez, vous dites voilà, vous passez dans le bureau d'à côté, ils ne comprennent pas ce que les autres font. C'est-à-dire que d'un bureau à l'autre, les mathématiciens ne sont pas capables de comprendre globalement les travaux des voisins quand on est évidemment sur des mathématiques très poussées. C'est-à-dire que c'est des recherches qui sont très spécifiques, qui sont extraordinairement conceptuelle et extrêmement pointue. Donc là aussi, c'est il y a l'Étienne que j'adore, l'Étienne, l'exemple que j'adore d'Étienne Gis, je l'adore Étienne aussi par ailleurs, mais c'est il montre à quel point la notion de vérité mathématique est fragile. C'est-à-dire qu'il dit, il explique à un moment donné qu'il a une discussion avec un collègue et sur une résolution de théorème, etc. Et Étienne lui dit oui, mais enfin bon, mais cette partie-là du théorème, mais si c'est très simple, elle est démontrée dans le bouquin dans ce grand bouquin de mathématiques, page 223. Et donc, le collègue lui dit, mais depuis quand tu crois les livres? Et là, Étienne a la puce à l'oreille, il me fait, mais quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, il retourne page 223, il regarde, et en fait, il se rend compte que la conjecture de ce grand livre de mathématiques qui est donné à tous les étudiants, etc., est fausse. Et que, de facto, le théorème dont on pensait qu'il avait pu être démontré était faux. Alors, en fait, finalement, il réussit à réorienter le truc à la fin, etc., mais que, néanmoins, en fait, voilà, c'est la vérité mathématique est absolument fragile, comme n'importe quelle autre forme de vérité, mais on imagine que les mathématiques sont beaucoup plus robustes, alors que pas du tout. Et Étienne raconte bien comment lui, le doute est absolument essentiel, il devient même parfois un peu pathologique chez lui. Il dit, dès que quelqu'un dit quelque chose, dès que j'entends un journaliste dire un truc à la télé, je dis, mais enfin, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Qu'est-ce qui vous permet d'assurer que c'est vrai?
Et alors ça, justement, parce que on évoque par cet échange-là, on va dire entre guillemets la bonne vulgarisation, la bonne médiation, mais aussi un certain nombre de vos interlocuteurs, justement, ont des protestations par rapport à une forme de diffusion de la science, mais qui est aussi liée à la question de la publication, qui est de vouloir faire vulgariser immédiatement des savoirs qui n'en sont pas. Marc Lachaiseret évoque aussi certains astrophysiciens qui s'intéressent à des objets qui, pour lui, considère que sont des gadgets cosmétiques et pas du tout des objets réels. Enfin, cette dimension-là existe aussi. Il n'y a pas que la médiation qualitative d'un savoir. Il y a aussi une présence médiatique de la science qui est problématique. Enfin, combien de fois on a entendu le matin, selon une étude, selon une découverte, etc., sans que ce soit des objets réels.
Oui, oui. Alors ça, c'est malheureusement plus tellement le fait des scientifiques, mais plutôt le fait des journalistes. Enfin, je crois que je me suis beaucoup exprimé sur ces questions-là et je le refais vraiment avec plaisir parce que on a bien vu pendant la pandémie qu'on a traversée à quel point l'absence globale collective de culture scientifique de la part d'une grande partie des journalistes d'information générale les poussait à raconter n'importe quoi et à laisser la parole à n'importe qui surtout. Je vais le redire une fois de plus, si, j'ai été enseignant en école de journalisme pendant 10 ans, j'enseignais en spécialité radio, je voyais les élèves avoir des semaines spéciales politiques, spéciales magazines, spéciales faits divers, spéciales sport, spéciales justice. Et quand il m'arrivait de leur donner, parce que déjà à l'époque j'avais quand même toujours mon petit tropisme scientifique, de dire tiens, il y a un papier scientifique qui est intéressant à un étudiant ou une étudiante, est-ce que tu me fais un papier pour le journal de midi? La réponse systématique c'était ah non monsieur, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Je vous assure aujourd'hui, et je le dis en amateur du multivers dans la bonne science-fiction et pas chez Marvel, que dans un multivers parallèle où on donne vraiment une semaine ou allez 4-3 jours de sensibilisation aux sciences, aux journalistes, dans les écoles journalistes, dans les écoles de journalisme depuis 10-15 ans, etc., on n'a pas dit d'IRAO, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde l'étude, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que... Enfin, quand on a vu l'étude, la première étude sur les 80 cas au bureau de la méthode scientifique, on s'est regardé entre nous en disant, mais ça, je veux dire, un étudiant en doctorat donne ça à son directeur de labo, on lui jette au visage en disant, tu retournes à la paillasse, c'est n'importe quoi. Bon, bah, il a fallu 3 ans pour s'en rendre compte et les dégâts qui vont avec. Donc voilà, c'est le problème ensuite, c'est un problème global de culture scientifique dans la société française, mais pas que, hein, dans les autres sociétés aussi. Et j'espère que la pandémie aura montré, et ça a été le cas pour un certain nombre de médias, hein, que le journalisme scientifique est important, qu'il faut avoir des référents et qu'il faut prendre des précautions. Encore une fois, hein, selon une étude très sérieuse, si vous entendez ça un jour à la radio, vous pouvez changer de chaîne. C'est-à-dire que si on a besoin de vous préciser que c'est une étude très sérieuse, ça veut dire que le journaliste d'une n'a rien compris, que deux, c'est certainement fait un truc, c'était une étude faite dans un pays lointain, fait par deux chercheurs complètement inconnus, sans aucun consensus scientifique, mais c'est un peu rigolo parce que c'est de la science vaguement marrante, mais c'est une étude très sérieuse. Bon, hop, on passe, merci, au revoir, et on passe à l'étude d'après. Ça malheureusement, c'est voilà, c'est la place de la science dans la société, et je ne pourrais vous dire plus avant qu'il faut que la culture scientifique est une culture, point, c'est tout. C'est intéressant, c'est passionnant. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout comprendre, mais ça veut dire que la culture scientifique est passionnante. C'est passionnant de comprendre, de voir, par exemple, pour sortir de mes tropismes d'astrophysique ou de physique théorique, de voir, par exemple, aujourd'hui, que la recherche médicale, grâce à un certain nombre, on peut parler de l'ARN messager, qui est une histoire passionnante, on peut parler aujourd'hui des médicaments prophylactiques pour lutter contre le VIH, qui quand même commence à nous montrer qu'après plus de 40 ans d'épidémie, on va progressivement pouvoir réussir à arriver à un niveau de contamination relativement bas et peut-être se débarrasser enfin du sida après plus de 40 millions de morts. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des histoires passionnantes à raconter. L'histoire des sciences, on peut la raconter, c'est des portes d'entrée merveilleuses. Et voilà, enfin, la culture scientifique, c'est chouette, ça fait pas peur, c'est passionnant. Et ce serait bien d'en avoir plus.
Ce qui justement ouvre vers l'une de vos nouvelles activités, puisque vous publiez ce livre aux arènes, mais vous allez aussi y être éditeur. Et alors justement, parce que se dessine un programme, quel est vos souhaits, qu'est-ce que vous avez envie d'y faire paraître et quelle forme ça va prendre?
Ce que j'ai envie d'y faire paraître, c'est finalement assez facile à résumer. J'ai envie d'y faire paraître ce que j'ai envie de lire, c'est-à-dire ce que j'aimerais trouver et que je vois pas ailleurs. C'est merveilleux et je remercie vraiment. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Laurent Beccaria et Pierre Bottura qui m'ont proposé de venir développer leur catalogue d'ouvrages scientifiques. Je refuse de dire sciences dures. Bon, je l'ai dit, mais je refuse de le dire parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Mais effectivement, les arènes faisaient plutôt des sciences humaines et sociales, mais d'aller dans les autres sciences. Il y a plein d'aventures formidables à raconter, que ce soit en livre et surtout également en bande dessinée. Je trouve que la bande dessinée, c'est une très belle façon de toucher un public large. Ça fait moins peur que des livres de science qui peuvent parfois être un peu plus décourageants, etc. Et puis surtout, ça peut se partager dans une famille, ça peut s'adresser à différents âges, à différentes cultures. Donc, il y a une très belle collection qui s'appelle L'incroyable histoire 2. Qui a commencé par l'incroyable histoire de la médecine. Récemment, il y a l'incroyable histoire de la bière. Donc, vous voyez, ça couvre un spectre assez large. Mais il y a l'incroyable histoire de la géographie, de la mythologie grecque. Bref, c'est des très, très chouettes BD. L'incroyable histoire du vin, qui est aussi un très bel exemplaire. Je vais faire, dans ce sens-là, les maths. Donc, une histoire des maths en bande dessinée qui est passionnante. Et puis, évidemment, on ne se refait pas une petite histoire de l'astronomie aussi. C'est-à-dire comment on a découvert le ciel à travers le temps, à travers les époques. De quoi je peux vous parler sans me faire taper dessus? Je peux parler un peu? Je peux y aller. Bon, on me fait signe que je peux y aller. Non, il y a un livre d'astronomie aussi qui arrive, pas tout de suite, un peu plus longtemps. Non, il y a un livre que j'aime. Que j'ai très très hâte de lire et avec lequel j'ai commencé à travailler avec les deux auteurs sur un livre de référence sur les médecines alternatives et complémentaires. Aujourd'hui, il va y avoir une enquête pour essayer de circonscrire exactement l'ampleur finalement du recours à ce qu'on appelle les MAC, mais globalement, je pense que tout le monde ici dans la salle, en le sachant ou en le sachant pas, a recours à ces médecines complémentaires, que ce soit, parfois ça peut être un petit coup d'huile essentielle quand on a le nez bouché ou quand on a des contractures, c'est l'ostéo qui fait du bien une fois de temps en temps, c'est un petit tour en thalasso, il y a plein de choses, ça peut être de l'acupuncture, de l'hypnose pour arrêter de fumer, bref, toutes ces choses qui nous touchent toutes et tous, qui sont très très répandues, qui parfois peuvent être très problématique. Et donc, avec Alexandra Delbault, que vous connaissez peut-être puisqu'elle fait le journal des sciences tous les matins, la matinale de France Culture, et Florian Gouttière, qui travaille chez Check News et qui était avant au magazine de la santé sur France 5, on va vraiment faire un tour pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces pratiques, qu'est-ce que c'est que ces médecines, d'où elles viennent, vraiment quelque chose une sorte de guide de référence historique, d'où viennent ces pratiques, comment elles ont été évaluées, si elles peuvent être ou non problématiques ou dangereuses. Il y en a quelques-unes qui sont efficaces, il y en a d'autres qui sont effectivement très dangereuses et qui fassent vraiment le tour de se dire vraiment que voilà, un vrai livre de vraie référence pour comprendre pourquoi finalement on a à ce point-là besoin de ces médecines alternatives et complémentaires et qu'est-ce qu'elles sont. Et je peux vous assurer que c'est vraiment des histoires absolument passionnantes. Là, je suis en plein dedans et je découvre des choses absolument sidérantes. Je pourrais vous parler d'urinothérapie si on n'était pas si près du dîner, mais je vous assure que c'est quelque chose qui fonctionne fonctionnent pas mal. Enfin, pas mal, qui ne fonctionnent pas mal, mais enfin, qui impliquent un certain nombre de personnes qui y ont recours, pour le dire autrement. Parce que ça fonctionne pas très bien, en fait.
Nicolas Martin, merci beaucoup justement merci pour le passage de ces savoirs.
Merci à vous de m'avoir invité.